VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous. Bonsoir. 13h à Washington, 19h à Bujumbura, 17h à Ouagadougou, 17h temps universel. D'abord, l'actualité en Afrique, au Burkina. L'ex-chef putschiste Gilbert Diendéré, une poignée d'irréductibles du régiment de sécurité présidentielle RSP, auteur du coup d'État avorté, ont pris en otage des soldats chargés de les désarmer, affirmait le gouvernement de transition burkinabé. Le processus de désarmement commencé samedi a été brutalement suspendu hier. Le général Diendéré refuse la dissolution du RSP par la transition et préfère résister. Selon toujours le gouvernement, Diendéré et ses acolytes du RSP auraient mobilisé de forces étrangères et de groupes djihadistes pour leur venir au secours. Mais le gouvernement n'a pas donné davantage de précisions selon AFP. Les organisations de la société civile ont de leur côté appelé la population à reprendre la résistance active face au reniement de l'engagement des forces loyalistes. Par des éléments de l'ex-RSP dans un communiqué sur son site internet. L'ambassade française au Burkina Faso a annoncé lundi la fermeture des établissements scolaires français cet après-midi en raison de troubles qui se produisent en ce moment à Ouaga 2000, quartier du palais présidentiel de la caserne du RSP et susceptible de s'étendre à d'autres quartiers. Bangui était paralysé par des barricades sur les principaux axes. Au moins 6 manifestants ont été tués ce lundi après un week-end de violences meurtrières accompagnées de pillages. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce la recrudescence de meurtres et de tortures au Burundi. Presque chaque jour, des corps sans vie sont retrouvés dans les rues de certains quartiers de Bujumbura. Et depuis avril dernier, 134 meurtres ont été enregistrés par l'ONU. La porte-parole du bureau du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Cécile Pouilly, joint à Genève, n'exclut pas le risque de voir le Burundi rebasculer vers un épisode plus sanglant.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Je vous disais donc que le haut-commissaire des Nations Unies dénonce des meurtres et des cas de torture qui s'opèrent au Burundi. Suivez la porte-parole de ce bureau à Genève, Cécile Pouilly.
Ces meurtres dépassent les limites. Il s'agit de la vie humaine qui est précieuse. Ce qui nous alarme aujourd'hui, c'est vraiment une augmentation non seulement des meurtres, mais aussi des arrestations et des détentions depuis le début du mois. Vous savez, presque chaque jour, dans certains quartiers de Bujumbura, on retrouve des corps sans vie dans les rues et ces victimes semblent avoir été tuées par des balles, parfois tirées à bout portant, dans le cœur, dans la tête. On retrouve les corps portant des traces de torture, les mains liées dans le dos. Donc vous voyez une situation qui suscite une peur vraiment, des craintes profondes au sein de la population et notamment dans des quartiers connus pour leur soutien à l'opposition. Donc suite à cette recrudescence de meurtres, plus de 134 depuis avril 2015, nous avons vraiment désiré tirer la sonnette d'alarme.
Et qui sont responsables de ces actes ?
Effectivement, il faudrait des enquêtes approfondies pour déterminer les personnes responsables. Toutefois, nous avons reçu des rapports qui suggèrent que parmi ces personnes, certaines avaient été, avant leur mort, arrêtées par la police ou les services nationaux de renseignement. Et ces meurtres inexpliqués, vraiment, qui aussi suscitent beaucoup de craintes parmi une partie de la population qui voit un lien avec les institutions étatiques.
Est-ce qu'il y a un risque de débordement violent de la part des victimes ou de ceux qui se sentiraient en danger ?
En tout cas, il y a clairement un risque de voir le Burundi rebasculer vers un épisode plus sanglant. On a vu depuis les dernières semaines, les derniers mois, des attaques ciblées avec d'un côté des membres de l'opposition et de la société civile, mais aussi des membres ou des partisans du parti au pouvoir pris pour cible, des responsables militaires. Et ce qu'on risque de voir, c'est que ces exécutions extrajudiciaires qui ne sont pas punies, les tortures qui ont lieu et qui restent également impunies, toute cette impunité au total poussait des gens à faire justice eux-mêmes. Et donc, risquer de voir le Burundi replonger vers des représailles violentes, et c'est une voie vraiment que nous ne souhaitons pas voir le Burundi emprunter.
Cécile Pouy, joint à Genève. À Brazzaville, l'opposition a tenu hier un grand rassemblement pour demander au pouvoir de renoncer à son projet de référendum qui permettrait au chef de l'État de se représenter en 2016. Et en République démocratique du Congo, une dizaine de militaires et de civils ont été abattus hier par des individus armés non identifiés près de l'Emera, dans le sud Kivu. Les victimes convoyaient la paye des enseignants de l'Emera. Les enseignants ont volé l'argent. Et en Allemagne, Ignace Mugwanashyaka et Straton Moussoni, président et vice-président des FDLR, rebelles Hutu rwandais, ont été condamnés à 13 ans et 8 ans de prison par une cour de Stuttgart où ils comparaissaient depuis le 4 mai 2011. Et l'homme d'affaires béninois, Patrice Talon, principal opposant au président en exercice Boni Yayi, se prépare activement pour la présidentielle de février 2016 au Bénin. Et les principaux adversaires du chef de l'État ivoirien sortant Alassane Ouattara ont réclamé lundi à Abidjan un accès équitable aux médias publics lors d'une manifestation à un mois de la présidentielle du 25 octobre.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, poursuite ce matin de l'Assemblée générale des Nations Unies à son siège à New York. Certains chefs d'État se sont déjà exprimés, dont l'Américain Barack Obama et le Russe Vladimir Poutine. Le compte-rendu de la journée avec notre envoyé spécial Tatiana Mousseau.
Dès 7 heures ce matin, les abords des immeubles qui abritent les Nations Unies étaient bouclés, sécurité maximum, avec la venue d'autant de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier. Sous un ciel nuageux, les délégations et leur cortège de voitures blindées noires se sont engouffrés dans l'enceinte du siège de l'ONU. Et c'est dans un désordre maîtrisé que la 70e Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte. Avec un peu de retard, c'est la présidente brésilienne Dilma Rousseff qui a ouvert les discours ce lundi à New York. Dans la salle quasi comble de l'Assemblée générale, c'est ensuite le président américain Barack Obama qui s'est présenté au pupitre. Dans une aisance impeccable, il a été implacable sur la guerre en Syrie, l'annexion russe en Ukraine ou encore le réchauffement des relations avec Cuba et son souhait de voir l'embargo levé. Plus tôt dans la matinée, c'est le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui exhortait les pays européens à faire plus en faveur des centaines de milliers de migrants et réfugiés qui affluent vers l'Europe. Outre la Syrie qui va dominer les discussions de cette 70e session, il s'agit aussi pour les leaders du monde d'aborder les questions de l'environnement ou encore de la bonne gouvernance. Autre événement cet après-midi ici à New York, une réunion de haut niveau avec le président Obama et le secrétaire général de l'ONU concernant les soldats de la paix. Alors que durant son discours, Barack Obama a annoncé vouloir contribuer plus aux missions de maintien de la paix.
Le président américain Barack Obama a manifesté la volonté des États-Unis à collaborer avec la Russie et l'Iran pour éradiquer l'État islamique en Syrie. Cette approche a été immédiatement critiquée par le sénateur républicain John McCain. Et Poutine, le président russe, quant à lui, a appelé à la création d'une large coalition pour combattre l'organisation de l'État islamique. Et les autorités saoudiennes n'ont toujours pas fourni un décompte par nationalité des victimes de la bousculade qui a fait 769 morts et 934 blessés jeudi dernier. Le Mali a décrété un deuil national de 3 jours suite à la mort de dizaines de Maliens à Mina. Et le Royaume-Uni va envoyer quelques dizaines de soldats en Somalie et peut-être dans le Soudan du Sud. Le contingent britannique devrait aider à renforcer la sécurité dans la région, a annoncé lundi un porte-parole du Premier ministre britannique David Cameron. Environ 70 soldats se rendront en Somalie où les insurgés islamistes Shabab, affiliés à Al-Qaïda, combattent le gouvernement de Mogadiscio soutenu par la force militaire de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Et en Afghanistan, les talibans ont pris le contrôle Kunduz, ville stratégique du nord du pays. C'est la première fois depuis la chute de leur régime en 2001 que les rebelles talibans sont entrés dans une grande ville afghane, Kunduz, infligeant un grave revers au gouvernement afghan en place depuis tout juste un an. Et 8 députés, 2 sénateurs ont été élus au premier tour du scrutin législatif à Haïti qui visait à renouveler la totalité des 119 députés et 20 sénateurs sur les 30 que compte le pays. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal. Au prochain, dans 20 minutes, avec Le Monde Aujourd'hui. Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec, à votre compagnie. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.